Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, dernière prédication d'été où les enfants restent avec nous au culte, et je vois que les enfants s'installent peu à peu sur les petites tables derrière. Et ce qu'on va faire, au fait, aujourd'hui, c'est avant tout raconter des histoires, parce que je crois que la prédication, c'est aussi ça, c'est raconter des histoires anciennes qui nous aident encore à vivre aujourd'hui. Et en cette fin d'été, qui a été particulièrement éprouvant, surtout pour certains d'entre nous, je vous propose une histoire pour reprendre des forces et une histoire qui, à bien des égards, nous parle aussi tellement de la grâce de Dieu dont Francky nous a parlé en première partie. C'est l'histoire d'un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de Dieu aux hommes et aux femmes de son temps, un prophète qui s'appelle Élie et qui a vécu il y a environ 3000 ans. Et Élie, au fait, il nous ressemble parce qu'à travers tout ce qui lui est donné de vivre et toutes les épreuves aussi de sa vie, il cherche à découvrir qui il est et qui est Dieu. Et parmi toutes les aventures de ce prophète Élie que nous raconte la Bible, il y a un épisode en particulier où Élie est complètement découragé et où Dieu va venir le nourrir et lui redonner des forces. Alors, quelques éléments de contexte. Le prophète Élie, il a vécu donc il y a environ 3000 ans en Israël, au temps du roi Akab. Et ce roi Akab, il avait une femme qui s'appelait Jézabel et qui l'a poussé à se détourner du Dieu vivant, de l'Éternel, de Yahweh, comme on vient de le chanter, pour servir un Dieu terrifiant, un Dieu qu'on appelait Baal et qui était le Dieu de l'orage, de l'éclair et de la pluie, une sorte de super-héros de l'époque. Et qui avait en Israël 450 prophètes, alors qu'Élie était resté le seul prophète du Dieu vivant. Et l'histoire que je vous propose de raconter aujourd'hui, elle se trouve en fait entre deux histoires plus connues de la vie du prophète Élie. Juste avant notre histoire, Élie a allumé un feu avec l'aide de son Dieu, alors que les prophètes de Baal, eux, n'ont pas réussi à allumer de feu. Mais dans son élan et sans consulter Dieu, Élie a ensuite carrément tué ces 450 prophètes de Baal. Et juste après notre histoire, changement complet d'ambiance. On retrouve Élie seul sur la montagne où Dieu va venir le rencontrer. Mais pas comme Baal, dans un vent violent, un tremblement de terre ou un feu, mais dans un souffle doux et léger. Et dans notre histoire, Élie va en fait découvrir que le Dieu vivant n'est pas un Dieu de violence ou de mort, mais un Dieu de douceur, un Dieu du détail et un Dieu du désert. Alors, je vous propose de lire tout de suite ensemble cette histoire qu'on trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 8, dans ma propre version, qui est une version un peu simplifiée à partir de celle de la Nouvelle Bible Second et avec quelques images. Akab raconte à Jézabel tout ce qu'a fait Élie et comment il a tué les prophètes. Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent si demain, à cette heure-ci, je ne te fais pas ce que tu as fait de leur vie. » Élie, voyant ça, s'en va pour sauver sa vie. Il arrive à Bersabée de Juda et il laisse là son serviteur, lui, il va dans le désert, à une journée de marche. Il s'assied, sous un petit arbre et demande la mort en disant « Ça suffit, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se couche et s'endort sous un petit arbre. Soudain, un messager le touche et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarde, il y a à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mange et boit, puis se recouche. Le messager de l'Éternel vient une deuxième fois, le touche et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se lève, mange et boit avec la force que lui donne cette nourriture. Il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Alors dans cette histoire, il y a un chiffre qui est très important et c'est le chiffre 2. Vous pouvez le faire avec moi, les enfants qui sont là, si vous voulez. Il est écrit deux fois dans l'histoire qu'Élie s'assied sous un petit arbre deux fois, qu'un messager de Dieu le touche, puis son message « Lève-toi, mange » est répété deux fois. Et puis on nous dit encore deux fois qu'Élie s'endort et deux fois qu'il mange et qu'il boit. Et c'est évidemment pas un hasard. Alors j'ai apporté ici, mais elle s'est un petit peu plus coupée que ce que je voulais, mais c'est l'équivalent, peut-être l'équivalent français d'aujourd'hui de la galette d'Élie, c'est une galette de riz de Camargue. Et si à partir de cette galette je vais en avoir deux, il faut que je la sépare et que je la coupe. Et en fait, être deux, ça veut dire être différent l'un de l'autre, ça veut dire qu'il y a une coupure, une séparation entre nous. Et en fait, c'est exactement la même chose entre Dieu et Élie et entre Dieu et chacun de nous. Dieu est très différent de nous et de toutes les images qu'on peut avoir de lui. Mais en même temps, c'est parce qu'il est différent qu'il peut librement entrer en relation avec chacun de nous, avec Élie, et que nous pouvons, nous aussi, grâce à nos différences, entrer en relation les uns avec les autres. Et pour illustrer combien ce Dieu qui entre en relation avec Élie peut aussi entrer en relation avec chacun et chacune de nous aujourd'hui, et aussi combien nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons être touchés par le Dieu de la douceur, nourris par le Dieu du détail, et relevé par le Dieu du désert. Je vous propose une deuxième histoire, une histoire qui s'est passée cette année dans la classe de terminale dans le lycée de Nancy et qui s'inspire fortement du vécu d'un de mes fils qui m'a autorisée à partager avec vous. Mais à sa demande, j'ai changé les noms des personnages et je leur ai donné des prénoms japonais. Touché par le dieu de la douceur. C'est donc l'histoire d'Akira, Akira qui est en terminale dans un lycée de Nancy, un âge particulier où, comme Élie, on cherche à savoir qui on est et ce qu'on veut faire de sa vie. Et Akira a de très hautes ambitions. Il rêve de devenir ingénieur en intelligence artificielle et de partir vivre au Japon. Alors il travaille dur et comme Élie, parfois, il s'épuise. Il est d'ailleurs arrêté une petite semaine pour un mini burn-out où, comme Élie, il s'endort plusieurs fois sur la journée. Comme Élie aussi, Akira est parfois découragé, car même si ses notes ont l'apparence du succès et du feu du ciel, il sait que ce n'est pas assez pour entrer dans certaines écoles. Et un jour où Akira reçoit une de ses notes, il pleure discrètement, assis dans la classe, comme Élie, sous son petit arbre, un peu gêné de pleurer pour ce qui semble en apparence une bonne note. Il espère que personne ne le verra. Mais voilà qu'une main se pose sur son épaule, comme celle du messager qui touche Élie. Akira se retourne et aperçoit un garçon souriant. Il est nouveau dans la classe, il s'appelle Tenchi. Et Tenchi ne se moque absolument pas d'Akira, mais il le console et il l'encourage. Nourri par le dieu du détail. C'est donc le début d'une amitié entre Akira et Tenchi. Puis vient le temps de Noël et le traditionnel secret Santa qui est fêté dans la classe. Et Akira apprend que c'est Tenchi qui lui a fait un cadeau. Et lorsqu'il déballe et regarde le cadeau que lui tend son ami souriant, il découvre avec surprise que c'est exactement ce dont il aurait rêvé sans même pouvoir l'imaginer. C'est un exemplaire d'un de ses mangas préférés, One Piece, je vois qu'il y a des connaisseurs, en version japonaise. Comme la galette cuite sur des pierres chaudes et la cruche d'eau qui nourrissent et désaltèrent Élie, c'est exactement le détail dont Akira avait besoin en ce moment pour reprendre des forces et pour se sentir profondément nourri et rejoint. Relevé par le dieu du désert. L'année scolaire passe et Tenchi, qui veut dire en japonais « le messager du ciel », est apprécié par toute la classe pour son attention aux autres et sa bienveillance. Mais à la veille du dernier examen du bac, Akira reçoit un texto d'un des lycéens qui lui annonce que Tenchi vient de mourir dans un accident d'avion. Choc, monde qui s'écroule, puis enfin les larmes qui coulent. Comme Élie, toute la classe de terminale fait la terrible et si douloureuse expérience de la mort. Mais comme Élie, dans le désert de la tristesse, les lycéens sont vite rejoints par d'autres messagers du ciel qui viennent les toucher, les nourrir et les relever. Il y a ce prof principal qui leur propose d'annuler le barbecue de classe et d'utiliser l'argent prévu pour acheter une couronne de fleurs pour leur ami et qui leur paye en plus à chacun des pizzas qui les réconfortent et qui les nourrissent. Il y a ces témoignages qu'ils écrivent et partagent avec la famille endeuillée et qui permettent à chacun de pleurer ensemble et de reprendre des forces pour continuer la marche dans le désert. Comme l'écrira Akira, Tenchi aura été un ange éphémère, mais sa vie, elle, aura été une fleur de feu. C'est ainsi qu'on appelle les feux d'artifice, littéralement en japonais. Akira sait que le chemin sera long, même trop long pour lui, qu'il faudra marcher encore et encore dans le désert. Mais il sait aussi que comme son ami Tenchi, le messager du ciel, il voudrait dans sa vie être quelqu'un qui est là pour les autres. Une main sur une épaule, une main qui nourrit, une main qui relève. Alors cette histoire d'Akira et de Tenchi, cette histoire d'Élie et du messager de Dieu, elle nous rappelle enfin, je crois, une troisième histoire, l'histoire de Jésus. L'histoire d'un homme envoyé du ciel pour toucher et guérir les malades, pour nourrir les foules affamées de justice et pour relever celles et ceux qui n'en peuvent plus. Un homme qui, comme Tenchi, meurt dans des circonstances tragiques, mais laisse pour toujours une trace. Un homme, fils du Dieu vivant, qui est venu nous montrer que la mort, aussi triste soit-elle, n'est pas la fin de tout. Alors, ces trois histoires, elles résonnent sûrement aussi avec ta propre histoire, avec des moments de ta vie, parfois peut-être au cœur du désespoir, où tu t'es senti toi aussi touché, nourri et relevé. Et je vous propose, pour terminer, de prier tous ensemble notre Dieu, ce Dieu de la douceur, du détail, du désert et de tant d'autres choses. Et après le temps de prière, on pourra prendre un court temps de silence ensemble. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es le tout autre, si différent de nous. Mais tu te fais aussi si proche de chacun et chacune. Merci parce que tu es ce Dieu qui vient nous toucher. Tu es ce Dieu qui vient nous nourrir. Tu es ce Dieu qui vient nous relever. Tu connais nos cœurs. Tu sais nos découragements, nos désespoirs et nos deuils comme ceux d'Akira et d'Élie. Et on te confie en particulier en ce moment toute la famille Pépé avec qui nous pleurons la mort d'Ethan. Et Seigneur, je te demande vraiment qu'en chacun de nos cœurs, aujourd'hui, exactement là où nous en sommes, puisse résonner cet appel du messager à Élie. Lève-toi, mange. Amen.